Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Que notre seule fierté soit dans la croix de Jésus-Christ. Tel est le cri de saint Paul, tel est le cri de tant de générations de chrétiens, de croyants qui ont trouvé dans la croix du Christ le salut, la rédemption, la force de la vie. Mais pourquoi la croix est-elle devenue aujourd'hui un pain de misère qui nous dégoûte, comme se plaint le peuple d'Israël dans le désert, et qui le fait récriminer contre Dieu. Or, cette crise dans le désert, ce n'est pas simplement une petite fâcherie, un petit accès, une petite dispute de ménage. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui peut aussi illustrer la récrimination que notre monde moderne, que nos contemporains, depuis la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, peut-être avec des racines antérieures chez les intellectuels, mais vivent et dans lesquels ils sont entrés, le langage de la croix, comme dit saint Paul, le langage de la croix est devenu quelque part inaudible. À preuve, prenez n'importe quel débat télévisé sur des problèmes sur la vie, sur la mort, etc. Vous trouverez tout de suite dans les débats une forme où on ridiculise le message chrétien en disant que finalement les chrétiens prônent l'apologie de la souffrance et avec le sens de dire ben, plus vous souffrez, plus vous aurez de la gloire, et en montrant bien que c'est une oppression pour l'homme, cette manière de voir. Un autre fait, il y a 10 ans, en entrant dans les aumôneries d'hôpitaux, encore aujourd'hui sûrement, on entend toujours « surtout ne parlez pas de la croix ». Parce que finalement, c'est faire peser, c'est comme légitimer la souffrance des gens, et finalement, ça aboutit à voir un Dieu pervers. On a enlevé de tous les lieux publics les crucifix, aussi de tous les lieux privés. J'aimerais vous demander qui d'entre nous a une croix pour illuminer son entrée, son salon, sa chambre, son lieu de travail. Et pourtant, ce serait si utile pour pouvoir lever les yeux vers celui qui nous sauve, vers celui d'où vient la vie. Notre texte d'évangile commence aujourd'hui par « Nul n'est monté au ciel ». Et si nous venons à la messe, c'est sûrement parce que quelque part, nous voulons monter au ciel. Les hommes de tout temps ont voulu monter au ciel, réserver, ouvrir une part de divin, une part de bonheur sans fin, illimité dans notre vie, et en pouvoir y accéder, échapper au mal. Mais comment y monter? Les hommes de tous les temps ont voulu conquérir le ciel. Et le mythe de Babel, où les hommes disent « on va faire une tour, on va faire une unité, on va avoir une langue unique, on va faire une mondialisation extraordinaire pour pouvoir échapper au malheur, donner le bonheur à tout le monde et toucher Dieu, et ainsi nous serons vraiment des dieux. » Nul ne peut monter au ciel. Il est fermé. Mais celui qui descend du ciel peut nous l'ouvrir. Et nous allons voir dans cet évangile ce sens de cette descente où Jésus va nous emmener, où la croix de Jésus nous emmener et où finalement il va donner la vie. Nous avons du mal à le comprendre car tout notre monde est dans la compétition, dans la réussite, c'est ça qu'il faut faire et il n'y a pas de place pour ceux qui sont dans l'échec, pour ceux qui sont dans la difficulté, dans la pauvre qui reste sur le bord du chemin. L'épître aux Philippiens que nous avons entendu nous donne la clé, mais une clé que bien souvent nous avons du mal à comprendre. D'abord, il nous parle justement de ce fondement, de ce ciel que nous cherchons. Le Christ Jésus, lui qui était égal à Dieu, qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit et d'être traité à l'égal de Dieu. Et voilà ici dans saint Paul sûrement une allusion à Adam et Ève qui ont revendiqué le fait d'être égal à Dieu. Vous serez comme des dieux, et c'est ce rêve qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi comme une proie, ils ont revendiqué, ils ont voulu prendre ce ciel comme les hommes de Babel, comme nous bien souvent, à partir de la désobéissance. Je disais que la lecture est difficile, car le passage important, c'est alors il s'est anéanti, il s'est fait homme et homme jusqu'à la mort de l'homme, et la mort sur la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'a élevé, comme ici Jésus parle de cette élévation du Fils de l'homme. Mais nous risquons toujours et nous revenons toujours à cette lecture dénoncée par nos contemporains, qui les précipite d'ailleurs dans l'incroyance, mais parce que nous le lisons toujours en termes de récompense, en termes de mérite, parce qu'il a beaucoup souffert, alors Dieu l'a exalté. Non, ce n'est pas une histoire de donnant-donnant. Et chaque fois que nous parlons de Dieu en termes de donnant-donnant, il faut le savoir, nous défigurons Dieu. Saint Paul nous enseigne, toute la Bible, tous les hommes de la Bible nous enseignent qu'il n'y a rien de plus opposé que cette mentalité à la révélation. Mais il faut le lire en termes de grâce, de gratuité. La différence avec Jésus, c'est qu'il a su accueillir le don de Dieu. Et si nous aimons tant la Vierge Marie, si elle est tellement notre mère, notre maîtresse, eh bien c'est parce que aussi nous la voyons, notamment dans l'Annonciation, accueillir le don de Dieu et être dans ce « voici la servante du Seigneur » depuis l'instant de l'Annonciation jusqu'au moment de la croix, jusqu'au moment de l'Assomption. Et Jésus et Marie nous enseignent à ne pas revendiquer les dons de Dieu, mais à accueillir le don du Père. Tout au long de sa vie aussi apostolique, Jésus va nous enseigner à comment accueillir. Au moment des tentations, par exemple, du désert, il entend différentes voix qui vont lui dire comment être le Messie, comment pouvoir être efficace, comment conquérir et établir ce royaume. Et Jésus doit choisir, quelle voie vas-tu choisir? Et nous devons aussi choisir, quelle voix vas-tu entendre? Et Jésus nous indique le chemin en ne prenant pas les voies de la convoitise, que ce soit par l'organisation avec cette histoire de pierre transformée en pain et d'organisation sociale de tout le monde, ni avec cette conquête par la richesse en acquérant les villes, ni par la gloire et la domination en sautant du haut du temple pour montrer à tout le monde qu'il est bien le Messie. Il n'écoute qu'une seule voix, la voix du Père. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et c'est à l'intérieur de cette humanité, de ce drame de notre monde qui à la fois l'accueille, qui le rejette, et en rentrant dans nos ténèbres, en portant, en revêtant notre péché, eh bien, qu'il va traverser, et qu'il va traverser notre malheur, et qu'il va accueillir le don du Père, et par son amour, il va nous sauver. Laissons-nous étonner par cette fête de la croix glorieuse. Vous savez que les représentations de la croix depuis dans le deuxième millénaire sont devenues à partir de l'époque gothique de plus en plus des représentations souffrantes de Jésus. Et il y a sûrement quelque chose d'une intuition et de plus en plus torturée. Et il y a sûrement quelque chose de juste dans cette représentation, dans cette perception qui montre combien Dieu est entré dans notre drame jusqu'au bout, dans le concret. Mais il ne faudrait pas oublier et que cette représentation chasse la représentation fondamentale de la croix pendant tout le premier millénaire. Dans tout le premier millénaire jusqu'à l'époque romane, les crucifix étaient représentés la croix et non pas le Christ souffrant sur la croix, mais d'abord des pierres précieuses. Parce que, avec ce sens que la croix, eh bien, elle va devenir lumineuse par la pierre de l'amour que nous allons recevoir de Dieu, que nous allons accueillir et que nous allons faire fructifier. C'est bien cela le mystère de la croix glorieuse. Et ensuite, à l'époque romane, vous avez Jésus debout sur la croix, vêtu, avec les yeux ouverts, avec la couronne, triomphant. Il est là et paisible. Hein, c'est cette victoire de la croix dans laquelle il faut que nous puissions rentrer de plus en plus. Et nous venons mendier aujourd'hui en cette fête de rentrer dans ce mystère de la croix. Mais voilà, comme bien souvent nous le découvrons dans l'Évangile, nous sommes aveugles, nous ne savons pas voir. Nous sommes comme les apôtres de Jésus qui voudraient et toujours et qui voudraient recourir à Dieu d'une manière magique. Qu'il supprime le mal, hein, surtout ne parle pas de la croix, parle de ton triomphe, et quand nous prions pour nous-mêmes, nous voulons aussi un Dieu souvent qui va mettre le mal dehors, qui va régler le sort des méchants, et puis régler le sort du mal à l'intérieur de nous. Alors que Jésus prend une autre voie, il faut que le Fils de l'homme soit rejeté, soit crucifié. Ici encore, de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut. C'est le chemin. Il faut que nous rentrions non pas dans cette image de Dieu qui va nous donner, qui est tout puissant pour nous donner une toute puissance, mais il va rentrer dans dans la petitesse, dans l'humiliation, et il va y faire rayonner l'amour. Bien sûr, ça nous demande profondément une conversion du cœur, une conversion de l'intelligence, une conversion plénière, car nous sommes toujours quelque part avec soit une psychologie de juif ou une psychologie de païen qui résume un petit peu toutes les psychologies du monde, c'est-à-dire que pour nous la croix est toujours soit un scandale, soit une folie. Alors, quelle est notre fierté, alors que c'est dans la croix de Jésus-Christ, eh bien, que nous découvrons qui devient ma gloire éternelle. Hier soir, après la procession au flambeau, Benoît XVI donnait un exemple de cette force de la croix. Il prêchait aux pèlerins qui étaient rassemblés à Lourdes, il prêchait sur la lumière avec la procession au flambeau, cette lumière qui vient illuminer Bernadette qui, en rencontrant Marie du fond de sa misère, peut-être la plus pauvre, la plus rejetée, si vous voulez, quelque part, parce que pas capable d'aller à l'école, pas capable d'apprendre son catéchisme, servant de servante, de bouche-trou, faisant tout un petit peu à la maison, et une famille dans laquelle malheur sur malheur rentre. Et puis, elle peut accueillir le don de Dieu et devenir une lumière. Voilà le chemin chrétien. Là où nous sommes, il n'y a pas besoin de trafiquer nos vies. Et la suite du texte de saint Jean le montre bien. Je suis venu ici finir en parlant du jugement et montrant combien Jésus vient apporter la lumière et vient mettre la lumière aussi sur nos œuvres mauvaises, sur nos cœurs brisés, broyés, dont Dieu d'ailleurs, nous dit le psaume, n'a pas de mépris. Mais au contraire, il vient aux pauvres, il vient aux souffrants, il vient à celui qui est dans la plus grande pauvreté, même dans le péché. Dieu se précipite vers le pécheur, il envoie son Fils, il le donne pour que nous puissions accueillir la vie. Et comme Bernadette, que nous puissions apprendre à accueillir le don de Dieu là où nous sommes. Dieu qui, là où nous sommes, nous appelle à être ses fils bien-aimés, nous donne ses dons, nous donne son amour et nous appelle à devenir vraiment féconds. Je reprendrai juste un petit passage de cette exhortation de Benoît XVI. En ce sanctuaire de Lourdes vers lequel les chrétiens du monde entier ont les yeux tournés depuis que la Vierge Marie a fait briller l'espérance et l'amour en donnant aux malades, aux pauvres, aux petits la première place, nous sommes invités à découvrir la simplicité de notre vocation. Il suffit d'aimer. Il suffit d'accueillir l'amour et la conversion à laquelle Dieu appelle les pécheurs. C'est toi qui es pécheur. Accueille l'amour de Dieu et apprends à le laisser régner à l'intérieur de toi. Et voilà comment se continue Benoît XVI. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, la célébration de l'exaltation de la Sainte Croix nous fera entrer précisément au cœur de ce mystère. En cette veillée, notre regard se tourne déjà vers le signe de l'Alliance nouvelle où toute la vie de Jésus converge. La croix constitue le suprême et parfait acte d'amour de Jésus qui donne sa vie pour ses amis. Annoncé dans les chants du serviteur, la mort de Jésus est une mort qui devient lumière pour les peuples. C'est une mort qui, en lien avec la liturgie d'expiation, apporte la réconciliation. Mort qui marque la fin de la mort. Dès lors, la croix est signe d'espérance, l'étendard de la victoire de Jésus. Par la croix, notre vie tout entière reçoit lumière, force et espérance. Par elle est révélée toute la profondeur de l'amour contenu dans le dessein originel du Créateur. Par elle, tout est guéri et porté à son accomplissement. C'est pourquoi la vie dans la foi au Christ mort et ressuscité devient lumière. Et voilà notre travail. Car être chrétien, c'est accepter de rentrer en travail, de faire ce travail, de pouvoir ouvrir notre cœur là où nous sommes, comme nous sommes, avec nos failles, avec nos blessures, avec notre péché, mais de laisser l'Esprit-Saint illuminer notre cœur, non pas pour nous terrasser comme de vilains pécheurs, comme on pourrait le penser, mais au contraire, pour venir nous relever, pour venir essuyer toute larme de nos yeux, pour nous unir aussi à son offrande, pour nous unir à sa manière d'aimer, qui ne se laisse pas vaincre par le mal, mais qui sait continuer à accueillir l'amour du Père et devenir lui-même pardon et source de pardon pour la multitude. Demandons au Seigneur la grâce, les uns pour les autres, de rentrer, de laisser briller cette croix de Jésus. Souvenez-vous et relisons cette année saint Paul, mais aussi toute notre vie, ces très beaux passages de saint Paul qui parlent où tout pour lui est enraciné dans ce mystère de la croix. Il ne cache pas qu'il a été persécuteur, il le dit. Et de quoi se glorifiera-t-il ? Il ne se glorifiera pas, dit-il, de toutes les œuvres qu'il fait, de toutes les intelligences qu'il peut avoir, de tout ce mystère qu'il a contemplé du Christ et de toute la puissance qu'il peut avoir. Il se glorifiera dans une seule chose, dans la croix de Jésus mais bien incarné, c'est-à-dire dans sa faiblesse. Et c'est là qu'il nous faut revenir, qu'il nous faut saisir, non pas d'une manière simplement dans notre tête, mais dans notre cœur. Jésus nous appelle à la fécondité, non pas parce que nous sommes des gens bien, mais parce qu'il nous apprend, avec l'aide de Marie, à accueillir le don de Dieu et à en être bouleversé, retourné, illuminé et à pouvoir porter ainsi du fruit et de la lumière à beaucoup.